Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve François-Pierre Misery.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Point de mire. Je vous propose aujourd'hui de faire plus ample connaissance avec une noble, ou combien noble, institution. L'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, dont on peut dire qu'elle est en quelque sorte la sœur cadette de l'Académie française, avec laquelle elle partage le souci de défendre et d'illustrer la langue française et sa littérature, mais dont elle se démarque nettement sur bien des plans, et en premier lieu peut-être par sa mission fondatrice visant à promouvoir le rayonnement des lettres belges francophones et l'apport spécifique des écrivains belges au concert francophone. Alors je dis « sœur cadette » car il est vrai que l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique est une assez jeune institution. Elle a été créée par un arrêté royal d'Albert Ier le 19 août 1920, sur proposition du ministre des Sciences et des Arts de l'époque, Jules Destrée, dans un climat marqué par un certain regain de l'influence belge au niveau international après la Première Guerre mondiale, et aussi par la renaissance des lettres belges francophones, dont les historiens situent l'origine, semble-t-il, à l'année 1880, qui est le moment fort de la fondation de la revue La Jeune Belgique, qui se voulait l'instrument de l'affirmation collective de la littérature belge. Alors depuis, les statuts de l'Académie royale ont évolué, comme la Belgique elle-même d'ailleurs, et elle dépend dorénavant de la Communauté française de Belgique, qui est l'une des trois communautés linguistiques qui forment l'État fédéral belge. Je ne vais pas continuer sur l'organisation de l'État belge, parce qu'on en aurait pour toute une autre émission. Et pour nous parler donc de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Canal Académie Jacques de Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique depuis 2002, membre de cette académie depuis 1997, élu au fauteuil d'Albert Aigpars, ce grand écrivain engagé de la littérature belge du siècle dernier. Et je remercie d'autant plus Jacques de Decker d'être parmi nous qu'il est venu spécialement de Bruxelles, ville où j'ai moi-même d'ailleurs le privilège de vivre. Jacques de Decker, bonjour.
Bonjour.
Jacques de Decker, vous êtes écrivain et vos activités littéraires, passées, présentes et futures, sont multiples. Vous êtes romancier, auteur dramatique, critique littéraire, traducteur aussi. Vous avez traduit notamment Goethe et Woody Allen.
Exactement.
Vous dirigez la revue Marginal, que nous évoquons dans une autre émission sur Canal Académie, au fil des pages. Vous avez animé de nombreuses rencontres littéraires, dont les fameuses conférences des Midis de la Poésie, au Musée d'Art Ancien de Bruxelles. Et votre charge de secrétaire perpétuel de l'Académie royale constitue en quelque sorte le prolongement naturel de toutes ces activités. Et pourtant, il me semble que les écrivains belges, membres de l'Académie, opèrent une assez nette distinction entre leur métier d'écrivain et celui d'académicien. Vous allez peut-être me détromper, mais il y a un petit détail qui, d'apparence anodine, qui m'a frappé. Les académiciens belges, en général, font abstraction lorsqu'ils publient leurs œuvres de leur qualité d'académicien. Au contraire des académiciens français qui, par tradition, font suivre leur nom systématiquement de la mention de l'Académie française. Alors, au-delà de ce détail, qui n'a pas une grande importance en lui-même, il reste sans doute que le poids de la tradition est assez différent pour les deux académies. Il est vrai que l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique n'a pas une si longue vie derrière elle et revendique même sa jeunesse. 1920, c'était hier. Pourtant, la Belgique existait déjà depuis 90 ans, et la littérature belge était déjà bien vivante avant 1920 et même avant 1880. Et les Flamands avaient déjà leur académie littéraire depuis 1886. Alors de là, ma première question, est-ce que vous pouvez en quelques mots peut-être nous éclairer déjà sur l'origine historique de votre académie et les raisons de sa création relativement tardive ?
D'abord, pour répondre à cette question assez subtile, de savoir pourquoi les académiciens belges ne font pas encore si souvent suivre leur nom de la mention indiquant leur appartenance à l'académie, il faudrait que nous nous demandions si au XVIIIe siècle, par exemple, ou au XIXe, les écrivains pratiquaient cela déjà. Je n'ai pas une idée très arrêtée de ça, mais j'ai comme l'impression que l'usage est relativement récent. En d'autres termes, il faudrait peut-être attendre 2100 pour que les académiciens belges se mettent à utiliser ce label. Alors, sur la création de l'Académie en 1920, effectivement, la Belgique, comme vous le dites, avait déjà 90 ans. Les Flamands avaient leur Académie de langue. Il faut savoir qu'en réalité, la première Académie belge, même reconnue comme telle avant que la Belgique n'existât, date de l'époque de ce qu'on appelle l'époque autrichienne, qui n'est pas une occupation autrichienne, c'est l'époque de Marie-Thérèse. Et c'est sous Marie-Thérèse qu'à Bruxelles s'est créée, donc au XVIIIe siècle, la Société littéraire de Bruxelles. Cette Société littéraire de Bruxelles est à l'origine de l'Académie royale de Belgique. L'Académie royale de Belgique existe à peu près dès 1830. À l'image un peu de l'Institut de France, elle a plusieurs classes. Une classe des sciences, une classe des arts et une classe des lettres. La classe des lettres de cette académie, qu'on appelle communément la thérésienne, a très longtemps, si vous voulez, suffi à réunir les gens de lettres de la Belgique, de l'ensemble de la Belgique. Il se trouve que les intellectuels flamands, et en particulier les écrivains flamands, qui souffraient beaucoup, il faut toujours le rappeler pour essayer de comprendre ce qui est à la base de la difficulté de la cohabitation des cultures et des langues en Belgique, pendant longtemps ont énormément déploré que la seule langue officielle du territoire belge fût exclusivement le français. Donc un mouvement de revendication, de reconnaissance de leur langue et de leur culture s'est fait jour très tôt. C'est dès 1835 déjà que paraît un roman célèbre qui s'appelle « Le Lion des Flandres » et qui est au fond un roman programmatique dans lequel les Flamands expriment leur désir de reconnaissance de leur identité et de leur culture. Ces intellectuels flamands, écrivains flamands, membres de la Société littéraire de Bruxelles, devenue académie dite thérésienne, se sentaient très frustrés au sein de cette académie et ont voulu avoir leur académie propre. D'où la création, déjà vers 1870, de l'Académie des Lettres Flamandes, qui existe toujours. Bon. À partir du moment où cette Académie des Lettres Flamandes existe, les membres littéraires de la Thérésienne commencent déjà à se demander pourquoi eux n'auraient pas une Académie spécifique de littérature. Tout ce processus a été très bien développé par Raymond Trousson, qui a consacré un ouvrage à tous ces développements, qui a d'ailleurs paru aux presses de l'Académie. Et au fond, il y a eu une véritable polémique qui a duré près d'un demi-siècle avant qu'on accepte l'idée de créer à côté de l'Académie royale de Belgique une Académie royale de langue et littérature spécifique. Comme vous l'avez très bien rappelé, le principal argument qu'on a fait valoir pour justifier cette création, ça a été l'extraordinaire efflorescence des littératures françaises en Belgique au tournant de siècle, et qui avait effectivement eu sa forme peut-être la plus visible avec la fondation de la revue La Jeune Belgique, mais qui avait été précédée par la publication en 1866 du grand roman fondateur de la littérature belge, qui est Le Til et le Spiegel de Charles de Coster. Et c'est sous l'impulsion d'abord de ce mouvement et aussi du fait de la prise de conscience que les lettres françaises de Belgique, appelons-les comme ça, avaient produit au cours de cette période 1880 jusqu'à la guerre de 14, des auteurs de l'importance d'un Maeterlinck qui avait le prix Nobel en 1912, de Verhaeren, de Van der Berg, de Rodenbach, l'auteur de Bruges la Morte, que l'idée s'est alors imposée. Elle s'est imposée à l'esprit de ce ministre visionnaire qui était Jules Destrée et qui, justement, était lui-même écrivain, donc particulièrement sensible à ce genre de choses.
Qui est rentré à l'Académie après.
Et qui est d'ailleurs devenu membre lui-même. Et puis, il y a aussi, comme vous l'avez rappelé également, le renom de la Belgique au lendemain de la guerre de 14 et l'extraordinaire réputation et gloire du roi Albert, du fait justement de la résistance sur l'Isère, etc. Tout ça a contribué à créer un esprit qui favorise cette création.
Bien, venons-en, Jacques Delecker, si vous voulez bien, à ce qui, à mon avis, véritablement place l'Académie royale dans une position unique par rapport à sa grande sœur française. Depuis 1920, date de sa création, votre institution se présente comme ouverte au monde, et même en avance sur son temps. Et moi, je trouve que c'est profondément vrai. Parce que l'Académie royale a en quelque sorte anticipé le mouvement institutionnel de la francophonie internationale, en faisant de la promotion de cette dernière l'un des axes majeurs de son action, depuis ce temps-là. Alors, ça veut dire donc que finalement l'Académie royale, vous étiez les précurseurs de l'OIF. Et aujourd'hui encore, cet aspect fait partie de votre quotidien, si j'ose dire. Vous soutenez par exemple le prix des 5 continents de la francophonie. Vous avez parmi les prix que vous remettez vous-même le prix Nessim Habif, qui a cette vocation et qui est ouvert à tous les écrivains de la francophonie, sauf les Français, de peur que peut-être ils prennent un petit peu trop de place, sait-on jamais, bon, après tout. Hein. Votre assemblée elle-même, d'ailleurs, est ouverte à tous les continents, puisque sur vos 40 membres, il y en a 10 qui sont obligatoirement étrangers. Alors, dites-nous-en un peu plus, peut-être, sur cet aspect capital de votre action en matière de francophonie.
D'abord, sur un point de détail, mais important à mes yeux, c'est que, en tant que secrétaire perpétuel, j'ai modifié, j'allais dire, la raison sociale du prix Nessim Habif. Cette précision apportée selon laquelle il ne pourrait pas échoir à un écrivain français a été supprimée. Ça a été supprimé parce que je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens et qu'en plus, c'est en contravention avec les règlements européens, pour commencer. Donc, évidemment. Mais ce n'est pas la raison profonde. La raison profonde, c'est au contraire, je dirais, de notre part, de rappeler à la France qu'elle est alors, pour le coup, la principale constituante de la francophonie. C'est une chose qu'il faut de temps en temps lui rappeler, vous en conviendrez.
Absolument.
Pour ce qui est alors de la présence de cette préoccupation francophone, oui, ce que vous dites est très flatteur, et en même temps, je suis navré de devoir constater que vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui a pu animer Destrée? Parce que c'est dans les statuts que ça a été inscrit d'emblée, donc les statuts sont vraiment l'œuvre de Jules Destrée. Je pense qu'il a compris d'abord une première chose, c'est que, très raisonnablement, une académie de langue et de littérature française pour un territoire aussi restreint même que la Belgique de Destrée, c'est-à-dire la Belgique qui avait à ce moment-là 8,5 millions d'habitants, par rapport à l'Académie française pour un pays 7 ou 8 fois plus peuplé, tenait un petit peu de l'arrogance. Je crois que ça a dû contribuer à sa réflexion. La deuxième chose, c'est que, effectivement, et là, je crois qu'on ne peut vraiment l'expliquer que par un côté visionnaire, mais ça, c'est propre à la Belgique. Je crois que il faut bien se dire que la particularité culturelle de la Belgique, c'est d'être constituée autour de la plus exceptionnelle et importante frontière linguistique de la planète. J'entends sur le plan culturel. C'est-à-dire que on a déterminé les frontières des pays un peu partout dans le monde selon une série de critères qui pouvaient être la géographie, le cours des fleuves, les chaînes de montagnes, tout simplement l'accès à la mer ou que sais-je, mais aussi l'emploi des langues. Ça a pu jouer quelquefois. Or, la Belgique a été construite en dépit de l'idée de l'emploi des langues. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas tenu compte du fait que sur ce territoire, il y avait deux grandes cultures européennes qui se rencontraient, c'est-à-dire la culture latine et la culture germanique. Et qu'il y avait là, si vous voulez, un risque que nous vérifions tous les jours, de débat, sinon quelquefois de conflit, parfois aussi une polémique quant à l'importance relative de ces cultures. En d'autres termes, j'aurais tendance à penser que Jules Destrée, devant l'importance qu'avait pris le mouvement flamand, devant les victoires légitimes d'ailleurs de ce mouvement flamand, je n'en parlerai plus aujourd'hui, mais à l'époque, il était parfaitement légitime que les ordres à l'armée se donnent en deux langues, que la justice soit dite en deux langues, que l'administration soit bilingue, etc., etc. Destrée avait quand même compris que ça risquait néanmoins de coûter à l'usage du français et qu'il fallait donc défendre le français en tant que tel. Et défendre le français, ça ne passe pas seulement par un travail sur le territoire de la Belgique, ça passe par le rappel que la langue française est une des plus importantes langues de culture au monde et qu'elle est en plus utilisée sur tous les continents. et que dès lors, il était bon de se servir d'une institution comme l'Académie pour le rappeler. Donc à partir du moment où il se disait une Académie de 40 membres à Bruxelles par rapport aux 40 membres de Paris, c'est beaucoup. Donc réduisons un peu. Donc on a réduit la classe littéraire à 20 membres, ce qui est encore beaucoup, avouons-le, sur le plan strictement statistique. Donc reste 20 membres écrivains et donc 10 membres philologues, on va revenir là-dessus, et puis alors 10 membres étrangers, donc de nationalité autre que belge, parmi lesquels il y a des écrivains et des philologues. On viendra à un autre aspect de la question, dans le fait qu'il avait aussi pensé à, bien entendu, y accueillir les femmes. Ce qui voulait dire qu'on aurait place pour des écrivains et des philologues, des linguistes francophones, de partout dans le monde. Et cette adoption allait très loin, si on pense que D'Annunzio, par exemple, a été membre de l'Académie de Belgique, parce que il se servait aussi du français. Donc il ne fallait pas pour autant que ce fussent des écrivains qui n'aient écrit qu'en français. Il suffisait qu'ils le connaissent ou qu'ils s'en servent quelquefois dans leurs écrits. Donc
il
c'est
l'aime.
Vrai. Pardon?
Qu'il l'aime.
On supposait qu'il, pour le faire, il l'aime. Donc je pense que là, il y a un geste que vous avez relevé qui a vraiment son importance, qui prend un énorme poids aujourd'hui et dans lequel on doit vraiment reconnaître quelque chose de prophétique.
Bien, nous allons nous arrêter pour un petit moment et nous allons reprendre dans quelques instants cette émission au Point de Mire consacrée à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Chers auditeurs de Canal Académie, bienvenue à nouveau dans l'émission Point de Mire, consacrée, je le rappelle, à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Et nous allons poursuivre donc notre conversation avec Jacques de Decker, son secrétaire perpétuel. Alors les femmes, Jacques de Decker, là encore, vous les Belges, vous êtes des précurseurs. Dès sa fondation, l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique est ouverte aux femmes. Bien avant l'Académie française. Très vite, Anna de Noailles, Colette, y sont entrés. Bien d'autres par la suite, je ne vais pas les citer toutes, Françoise Malégoris par exemple, aujourd'hui. En 1999, en 1999, décidément, il faut être bilingue, hein, vous avez élu Assia Djebbar, 7 ans avant qu'elle n'intègre tout récemment l'Académie française. Alors, ma question est simple, comment vous expliquez ce décalage par rapport à la France? Parce que ce n'est pas seulement l'Académie française et l'Académie royale. Vous avez également, bien avant nous, le droit de vote des femmes. Vous avez institué le droit de vote des femmes largement avant la France. Vous les faites entrer à l'Académie bien avant la France également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une différence d'approche politique circonstancielle, comme ça, à un moment donné? Ou est-ce que ça traduit, selon vous, l'expression d'un mouvement plus profond de société?
J'aurais tendance à le dire, si je ne suis pas très expert en la question, je pense que c'est une problématique qui n'a jamais été réellement analysée au niveau où elle devrait être analysée, c'est-à-dire pas seulement politique ou sociologique, mais aussi idéologique et psychologique. Je pense que ça tient peut-être au fait que la société belge est une société mixte et que la tradition germanique y rejoint la tradition latine. Parce qu'on voit quand même bien que dans le monde germanique, le statut de la femme était, sur le plan officiel, sur le plan, pas du tout de son importance réelle, évidemment, dans le corps social, mais sur le plan officiel et de la reconnaissance, beaucoup plus avancée dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Je pense que c'est une explication possible qu'on peut en donner. En tout cas, pour Destrée, ça paraît aussi une chose absolument évidente. Et alors, vous avez cité Anna de Noailles. Je trouve que c'est vrai qu'elle a été élue dans la première fournée. Et c'était une élection extraordinairement symbolique. D'abord parce que c'était une femme, mais aussi elle était roumaine. Et qu'à la fois, on avait... une francophone, non belge, non française et femme donc. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté parce que vous ne l'avez pas cité, mais je crois que ce qu'il y a de plus spectaculaire évidemment, c'est l'élection 10 ans avant Paris de Marguerite Yourcenar à Bruxelles. Parce que là, on marque un coup sans savoir parce que pour les académiciens qui l'ont élue, ça allait absolument de soi, pas seulement parce que les règlements le permettaient, mais aussi parce qu'elle était née à Bruxelles, qu'elle avait une mère belge, wallonne, et qu'elle était liée à la Belgique par plein de choses. Donc ça allait tout à fait de soi. Mais comme elle s'est trouvée être la première femme à être élue à l'Académie française, du coup, cette élection-là prend une dimension encore plus symbolique.
Bien sûr.
Bon, moi, je ne suis pas là pour accabler l'Académie française. Je crois qu'elle est très enchantée aujourd'hui d'avoir changé de cap. Et nous, on est très heureux de pouvoir compter dans nos membres anciens ou présents. Vous citiez Françoise Malégeuris, mais Françoise Malégeuris a eu le bonheur de succéder à sa propre mère, qui était Suzanne Dillard. Et donc, il y a des espèces de dynasties littéraires. Il y en a quelques-unes dans l'Académie, d'ailleurs, mais il y en a une entre deux femmes. Et puis, des femmes écrivains moins connues, en dehors de la Belgique, comme Marie Gevers, par exemple, ou une grande poétesse comme Liliane Wüthers, ou Claire Lejeune, aujourd'hui, des membres plus jeunes, comme Daniel Bajomet. Enfin bon, vous savez, pour nous, c'est tellement normal qu'on ne voit même pas vraiment où se trouve la question. C'est l'aquarium dans lequel nous nageons.
Quel aquarium ! Bien, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, Jacques de Decker, d'aborder ce qui peut-être pour moi est la question clé. Comment peut-on aujourd'hui défendre l'autonomie, la spécificité de la littérature belge francophone ? Alors, vous la défendez très bien, cette spécificité. Concrètement, le nombre de prix qui encouragent les jeunes auteurs belges est assez impressionnant, je veux dire. Mais comment est-ce qu'on peut véritablement agir en profondeur sur ce terrain, alors que les écrivains belges sont depuis si longtemps et si constamment attirés par ce que les professeurs Jean-Marc Kickenberg et Benoît Denis appellent dans leur excellent ouvrage « La littérature belge » paru récemment chez Space Nord, la force centripète, l'antrisme, autrement dit le recentrage sur Paris et sur le milieu éditorial parisien. Comment est-ce qu'on peut concilier cette force centripète avec la force centrifuge, qui pousse au contraire les auteurs belges à affirmer leur identité belge et l'apport de la Flandre à l'esprit belge, qui les anime? Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle, je rentre maintenant plus dans le détail, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous tentez en quelque sorte d'échapper à cet antrisme parisien, en cultivant tout ce qui peut y faire contrepoids, en quelque sorte. La francophonie extérieure à la France, même à la limite l'apport des philologues, qui oblige à considérer la langue dans son mouvement intérieur autant que dans son environnement social, politique ou littéraire. Est-ce que, un petit détail en passant, est-ce que c'est une des raisons, par exemple, pour laquelle vous laissez ouverte dans vos statuts, ça m'a frappé, l'interprétation pour vos membres de l'appartenance à la communauté française de Belgique? Autrement dit, question à l'envers, qu'est-ce que c'est qu'un étranger pour vous? J'ai pas l'impression que ce soit une question de nationalité.
C'est une question très vaste, extrêmement complexe, à laquelle on ne peut répondre que en usant d'abord de perspectives historiques, puis en s'engageant soi-même, parce que les points de vue là-dessus sont très divergents, même en Belgique. D'abord, sur le fait de savoir si l'expression correcte est littérature belge, expression française, ou littérature française de Belgique. Cette double appartenance, cette double définition contient en résumé la question. C'est-à-dire, est-ce que un écrivain écrivant en français en Belgique se distingue de la littérature française? Non, et en même temps j'ai envie de dire oui, c'est-à-dire qu'il est les deux en même temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait un écrivain? Je crois fondamentalement sa langue, c'est évident, bien entendu. Donc il y a une appartenance à la littérature française. Remarquez que cette question d'appartenance, elle, dans ce cas-ci, suppose deux interventions, celle de la France, en l'occurrence, et celle de la Belgique. Je suis étonné de constater que lorsqu'un écrivain belge de langue française existe fortement dans l'ensemble de la francophonie, donc en France, la plupart du temps d'ailleurs il est édité en France, il est assimilé aux écrivains français sans le moindre problème. À partir du moment en revanche où la question se pose dans des termes historiques, c'est-à-dire de relever ou non de l'histoire de la littérature française. Alors là, c'est un petit point de détail sur lequel je voudrais insister. Curieusement, l'écrivain disparaît de la littérature française. Je citais tout à l'heure l'écrivain, je dirais, le plus symbolique du grand démarrage des lettres françaises de Belgique, c'est-à-dire Charles de Coster. Charles de Coster a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Tidenspiegel, qui est connu dans le monde, qui est connu en France. Je rappelle que Gérard Philippe, le seul film qu'il ait tourné, était inspiré de ce roman. Eh bien, dans tous les ouvrages d'histoire de la littérature française, il n'apparaît que pour autant qu'on prévoit un supplément consacré aussi à la Belgique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une affirmation belge de la différence, il y a peut-être une curieuse attitude centriste de la France à l'égard d'écrivains venus d'ailleurs. Donc il y aurait, si vous voulez, de la part des écrivains belges, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intériorisation de leur étrangeté. La deuxième chose qui définit un écrivain, en dehors de la langue, c'est l'espace-temps dans lequel il vit. Et il est certain que l'espace-temps d'un écrivain qui vit en Belgique n'est pas le même que celui d'un écrivain qui vit en France. Par exemple, vous parlez de la question coloniale en France, on vous parle de l'empire colonial français, dont est exclu forcément le Congo. Vous en parlez en Belgique, on ne vous parle que du Congo. Sur le plan de l'évolution sociale, de l'évolution politique, ce pays n'a pas préparé la Révolution française, par exemple. Ce pays n'a pas vécu la Révolution française au sens propre. Il en a subi quelques conséquences, mais il ne l'a pas vécu. Donc il y a toute une série d'éléments culturels, politiques, historiques, fondateurs qui font la France et qui ne font pas de la même manière la Belgique. Donc malgré eux, même s'ils s'assimilent, ils ne sont pas totalement assimilables. Donc je ne dirais pas jusqu'à dire aujourd'hui qu'il y a une spécificité totale, enfin, qui les définirait à 100% comme des êtres étrangers, mais il y a des définitions particulières et qui peuvent justifier et expliquer cela. Mais je dirais que c'est un point de vue, comme je disais tout à l'heure, dans lequel chacun s'engage. Et ce que vous avez là, par exemple, c'est plutôt mon analyse provisoire du phénomène, ce n'est pas celle de l'Académie royale et ce n'est pas celle de mes confrères, ou du moins de tous mes confrères. Donc, on est là dans une matière de débat absolument constant et qui fait que, par exemple, si on prend deux écrivains du XXe siècle illustres de langue française, d'origine belge, qui sont Michaud et Simenon, on constate très bien que les deux ont vécu leur appartenance à la Belgique de manière extrêmement différente.
Toute petite sous-question, est-ce que ça n'implique pas quand même qu'on se préoccupe davantage dans le futur de la vitalité de l'édition belge?
Oh mon Dieu, là évidemment, ça mériterait une émission tout entière.
Alors on va pas continuer. On va pas continuer et on va passer, si vous le voulez bien, Jacques Decker, à la question finale. Par-delà donc les spécificités de l'Académie royale, dont la Belgique, je le souligne, peut être légitimement fière, quelle pourraient être les terrains d'entente et de coopération dans le futur avec l'Académie française et d'autres académies européennes éventuellement. Et je termine peut-être par un clin d'œil. Est-ce que un canal Académie européen, est-ce que c'est possible un jour?
Mais personnellement, je le souhaite. J'ai déjà eu le plaisir, d'ailleurs, et je ne crois pas révéler un secret diplomatique, d'en parler avec Madame Hélène Karadankos, qui est très favorable à tout contact avec les autres académies, non seulement de langue française, à commencer par la nôtre, mais aussi les autres académies européennes. Parce que je crois que l'esprit académique a sa justification dans le monde d'aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Je pense que c'est un esprit à la fois d'ouverture, de mémoire, de souci de la transition entre le passé et le futur, dont le monde d'aujourd'hui a immensément besoin. Et il n'y a pas tant d'académies sur le modèle français en Europe qu'on le croit. J'ai fait récemment une petite étude là-dessus, il n'y en a que 7 ou 8. Je veux dire, les 25 pays membres de l'Europe institutionnelle n'ont pas tous une académie du même type. Mais qu'il faille développer un réseau d'esprit académique à travers toute l'Europe, là, je suis le premier à être prêt à retrousser les manches dans ce sens-là.
On va terminer sur ce mot, plein d'espoir. Merci Jacques de Decker.
Merci beaucoup.